Ah, on sent mieux.
Voilà.
Oui, donc je vous disais que si je m'intéresse à ça, c'est pour deux raisons. Donc la première, à la base, j'ai fait des études de philosophie. J'ai enseigné la philo dans un lycée, pas très longtemps, mais un peu. Et comme je m'intéressais spécialement à la pensée indienne, j'ai fait une thèse de doctorat sur la philosophie indienne. Et ensuite, j'ai un petit peu enseigné à la fac de Rennes comme chargé de cours. Voilà, donc j'ai un petit peu de bagage. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, c'est bien sûr un aspect personnel. C'est que si je me suis intéressé à ça, c'était parce que je me sentais concerné. Et je n'ai pas forcément prévu de vous raconter ma biographie, mais assez jeune, je suis né dans une famille bretonne tout à fait classique, avec des parents catholiques, et j'ai été au catéchisme, j'ai été à l'église jusqu'à la fin de l'adolescence, en gros. C'est ma petite crise, hein, comme beaucoup. Voilà, et donc sur cette base-là, pour des raisons que j'ignore, je me suis senti très jeune, attiré par la pensée orientale et l'Inde en particulier. Comme un certain nombre d'entre vous, vous êtes probablement senti attiré par la pensée chinoise et par les pratiques. Voilà. Donc, les attirances comme ça, on les choisit pas toujours. Hein, c'est voilà. Donc moi, j'ai pas forcément choisi, mais je me suis trouvé attiré par ça. Voilà. Donc, parallèlement donc à mes études et puis à ce que j'ai pu commencer à enseigner, j'ai fait une démarche personnelle dans le yoga au sens large. D'abord le hatha yoga, le yoga corporel. Qui est un petit peu le pendant du tai chi dans la tradition chinoise, la tradition hindoue. Hein. Et puis ensuite, j'ai approché quelqu'un qui s'appelle Arnaud Desjardins, ou qui s'appelait parce qu'il est mort en 2011, et qui était lui-même disciple d'un maître indien, dont je vous reparlerai tout à l'heure, Swami Prajnapada, et qui donc proposait une démarche de yoga, mais beaucoup plus intérieure ou intériorisée. Pas postural, ou très peu. Et voilà, donc du coup, j'ai fait un cheminement dans ce cadre-là, auprès d'Arnaud Desjardins, en France, hein, après avoir été plusieurs fois en Inde. Voilà, donc ce que je peux partager avec vous, c'est un mix entre des connaissances intellectuelles et puis une expérimentation intérieure et une expérience qui, sur le fond, rejoint en fait ce qu'il y a derrière le tai chi. Hein. Toutes ces disciplines orientales, elles ont quelque chose de commun, une visée commune. Elles n'utilisent pas toujours les mêmes techniques, les mêmes moyens, mais elles ont une visée commune. Donc c'est de ça que je vais tenter de vous parler aujourd'hui. Puisqu'on peut dire que cette visée commune, à la fois à la pensée chinoise et à la pensée indienne, c'est cette notion de sagesse qui, chez nous, est tombée en désuétude, en gros, après les philosophes grecs, du temps des premiers philosophes, Socrate, puis Platon et ses élèves. La notion de sagesse était encore une notion très vivante. On peut dire que Socrate était un sage et pas seulement un philosophe, puis que petit à petit, eh bien, ses disciples ont perdu le contact avec la raison profonde, et puis c'est devenu la philosophie, c'est-à-dire un exercice tout à fait intéressant, mais quelque part déconnecté d'une transformation de soi. Bon, voilà. Donc, nous, on ne va pas, j'espère, pas faire de la philosophie, mais faire, découvrir ensemble ce que peut être la sagesse indienne et, bien sûr, en quoi est-ce qu'elle peut nous concerner, nous, aujourd'hui, et nous parler de notre propre évolution possible. Voilà. C'est ça que je. C'est mon projet pour ce moment passé ensemble. Ça vous va? On peut essayer alors? Alors, en tant qu'ancien prof de philo, je suis quelqu'un d'un petit peu structuré psychologiquement. Donc, j'ai fait un plan que je vous présente. Voilà, on va parler dans un premier temps des origines de la sagesse indienne et des fondateurs de la culture indienne, d'un point de vue un petit peu mythologique. Ensuite, je vous parlerai de la façon dont, au fil des siècles, ce qui au départ était une tradition orale, qui se transmettait verbalement de maître à disciple, s'est transformé peu à peu en une tradition écrite, enfin, toujours aussi orale, mais avec des textes. Donc c'est pour nous aujourd'hui la façon la plus facile de découvrir ce que peut être la sagesse indienne, c'est de s'intéresser à ces textes. Donc je vous présenterai, rassurez-vous, un peu brièvement, les principaux textes qui parlent de cette sagesse. Bon, les deux premiers points, c'est un petit peu historique, voilà. Mais il faut bien entrer par un bout. Avec le troisième point, on va déjà entrer dans quelque chose qui va nous concerner davantage. Je vais essayer de vous parler de la vision du monde propre à la sagesse védique. La sagesse védique, c'est la sagesse indienne. Et en particulier, une notion qui donc existe dans les textes depuis 2500 ans ou plus, et qui a encore de l'actualité, selon moi, ce sont les buts de l'existence humaine, selon cette sagesse, et la hiérarchie de ces buts. Donc, on va parler de ça. Et puis, comme vous allez le voir, j'ai parlé d'une hiérarchie, on verra tout à l'heure, j'ai présenté ça sous forme d'une pyramide. Eh bien, le sommet de la pyramide, le but ultime, selon la pensée indienne de la vie humaine, ce but ultime, c'est l'éveil spirituel. On parle soit d'éveil, soit de libération, parce qu'on est libéré des limites de la condition humaine ordinaire. Donc, on va s'appesantir un peu sur cette notion, voir qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire et éventuellement en quoi ça pourrait nous concerner. Et pour que ça ne reste pas trop théorique, j'ai prévu de terminer en vous parlant de quelques témoins remarquables de cette sagesse, des témoins contemporains ou plutôt proches de nous, puisque c'est des personnes qui sont mortes au cours du XXe siècle, qui sont nées pour certaines à la fin du XIXe. Donc, quelques grandes figures de la spiritualité indienne qui inspirent encore beaucoup de personnes en Inde qui comment dire, suivent les enseignements sont issus de ces différents maîtres. Et entre autres, eh bien, on trouvera là, à la fin de ma petite liste, Swami Prajnapad, dont j'ai prononcé le nom déjà tout à l'heure, et qui était le maître d'Arnaud Desjardins, et dont je m'inspire le plus directement dans ma pratique personnelle. Voilà, ça vous va? Eh bien, c'est parti pour le premier point. Aux origines de la sagesse indienne. Alors, c'est toujours un peu la même chose. Quand on cherche l'origine d'une culture, eh bien, il y a on peut approcher ça par un biais archéologique, trouver, etc. C'est un peu, on a des bribes, on ne comprend pas très bien. Et puis, on peut aussi s'intéresser à la mythologie. Alors, la mythologie, ça veut évidemment, ce ne sont pas des vérités historiques, mais ça donne, comment dire, un climat. Alors, le climat de l'origine de la culture indienne, eh bien, il n'est pas si éloigné que ça du point de vue mythologique du climat propre à la tradition judéo-chrétienne. Vous vous souvenez que dans la tradition judéo-chrétienne, eh bien, il y a la création d'un premier homme et d'une première femme, Adam et Ève, et puis il y a une période où ils vivent au paradis terrestre, et puis il y a la chute, et puis Voilà, après, il y a différentes péripéties. Et à un moment, il y a l'épisode de comment dire, où la terre est inondée par les flots et où Noé a l'idée de sauver un petit peu de l'humanité et construit une arche et puis fait monter dessus un couple de chaque être vivant, plus j'imagine sa famille, ses amis, et voilà. Comme ça, l'humanité est sauvée et il y a enfin, comment dire, un nouveau cycle de l'humanité qui démarre. Eh bien, il y a un mythe qui est un petit peu semblable en Inde. Le premier homme ne s'appelle pas Adam, mais s'appelle Manu. Et à un moment donné, donc il y a aussi une phase d'âge d'or où les êtres humains vivent en harmonie avec la nature, avec le cosmos, avec les animaux. Ça se dégrade à un moment donné et il y a là aussi des pluies torrentielles qui se mettent à inonder la terre et la terre devient inhabitable. Et à ce moment-là, Manu, il construit une petite barque, enfin, voilà, on voit sur le dessin, et il y a un poisson qui le guide pour l'amener à un endroit où il y a de la terre ferme et où ensuite, quand l'eau va se retirer, une nouvelle humanité va pouvoir commencer. Et dans cette barque, Manu, bon, l'histoire ne dit pas si, comme Noé, il met des couples d'animaux, mais en tout cas, il se débrouille pour mettre au bord dans la barque, sept sages. Voilà, donc ils sont dessinés sur la petite image. Ce sont des rishis, c'est le mot qui est utilisé pour le mot sanskrit pour parler de ces sept sages fondateurs. Alors donc, d'un point de vue mythologique, ils sont arrivés sur, je sais pas quoi, un morceau de colline. Puis quand les eaux se sont retirées, eh bien, ils ont commencé à construire la civilisation indienne. Et donc, la sagesse dont on va parler, eh bien, elle nous viendrait à travers ces sages fondateurs. Alors, ensuite, donc, ces sages, ils ont transmis leurs connaissances et surtout leur expérience. En gros, qu'est-ce qu'ils ont transmis, ces sages? Ils ont permis l'expérience de l'unité que les premiers hommes avaient, hein, on retrouve c'est très parallèle avec la Bible. Dans le paradis, les humains sont spontanément en harmonie avec tout ce qui existe, avec la nature, avec les animaux, et quelque part, ils gardent la conscience d'être des éléments d'un tout. Ils gardent la conscience d'une harmonie. Eh bien, ces sept sages, c'est ce qu'ils ont conservé et qu'ils ont donc transmis au début de la nouvelle civilisation, la civilisation indienne. Et du coup, ces sages, on en parle souvent plus comme des poètes ou des chamans que comme des philosophes, des gens intellectuels. C'est beaucoup plus des êtres qui ont gardé intacte la sensibilité que nous avons, par exemple, quand nous sommes enfants. Hein, il y a une fraîcheur, une naïveté, mais au bon sens du mot, qui fait qu'un enfant, eh bien, il s'émerveille et puis il ne fait pas complètement la différence entre lui et ce qui l'entoure. Voilà. Bon, avec les limites hein, aussi d'un enfant qui, évidemment, il y a des choses qu'il ne connaît pas encore. Mais chez un vrai poète, eh bien, il y a quelque part une âme d'enfant, la capacité à rester en contact avec et émerveillé par la beauté du monde, par exemple. Donc les rishis, voilà, il faut les voir comme des poètes visionnaires, comme des chamans, c'est-à-dire des gens capables d'entrer en relation avec des dimensions plus fines de la réalité. Et C'est pour ça que pendant longtemps, eh bien, la sagesse dont ils étaient porteurs, elle est restée orale. Et en fait, c'était plus transmettre une expérience que transmettre des connaissances. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une expérience indicible, parce que c'est, voilà, c'est comme, je sais pas quoi, une expérience artistique. C'est parmi vous, il y en a comment dire, soit font de la peinture, soit de la musique, soit etc. Quand on exerce un art, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai parlé avec suffisamment de personnes dans ce cas, eh bien, il y a des moments un petit peu magiques où, à travers l'art que l'on exerce, on sent s'installer une certaine qualité de présence à soi-même, de relation avec ce qui nous entoure. Voilà. Eh bien, à la base, la sagesse, c'est comme ça quelque chose, c'est une expérience qui se vit et qui se parle difficilement. Quand on en parle, il y a le risque d'appauvrir et d'intellectualiser quelque chose qui n'est pas du domaine de la pensée, ou qui en tout cas le dépasse. Voilà, donc, pendant très longtemps, la tradition de sagesse indienne, comme d'ailleurs dans les autres civilisations, hein, on retrouverait la même chose en Chine ou en Grèce, la Grèce d'avant les philosophes, eh bien, c'est une tradition qui se transmet d'homme à homme, enfin, d'être humain à être humain, hein. Et du coup, on a cette notion qui est très forte en Inde, mais aussi dans les autres cultures traditionnelles. La notion de filiation, de maître à disciple, de maître à élève. Alors, il y a un mot sanskrit qui désigne ça, c'est guru, shishya, parampara. Guru, vous connaissez le mot parce qu'il est devenu malheureusement à la mode, c'est-à-dire qu'on l'a dévoyé de son sens premier, parce que le mot guru veut dire maître, au sens quelqu'un qui a une maîtrise dans un domaine donné et qui l'enseigne. Hein, voilà, on pourrait traduire guru par professeur. Au sens le plus complet du mot professeur, pas juste celui qui est professeur de maths, mais quand on donne un titre de professeur à quelqu'un, je sais pas moi, un professeur de médecine, c'est pas juste quelqu'un qui sait la médecine d'un point de vue littéraire, c'est quelqu'un qui a une maîtrise d'un domaine de la médecine. Voilà, c'est un peu ça, gros. Shishya, vous connaissez pas le mot, mais ça veut dire élève. Donc, maître, élève, et parampara, c'est le mot qui dit la continuation, la chaîne. Donc pendant très longtemps, la sagesse se transmettait d'homme à homme, enfin, d'être humain à être humain, voilà, comme une transmission d'une expérience avec très peu de mots. Et puis, eh bien, j'y étais pas, donc je vous raconte quelque chose tel que je me représente, mais on peut imaginer que auprès de certains maîtres, certains élèves se sont dit, mais voilà, quand ils enseignent quelque chose, c'est précieux, je vais le noter. Et donc on a noté les paroles de certains maîtres. Et puis, ben, petit à petit, ça fait des recueils de paroles de sagesse. Et c'est comme ça que petit à petit, la tradition orale s'est complétée d'une dimension écrite. Alors, juste pour les informations culturelles, la langue dans laquelle s'est transmise cette sagesse et dans laquelle elle a été rédigée, c'est le sanskrit. Le sanskrit, c'est la langue ancienne de l'Inde, et c'est pas inintéressant de savoir que le sanskrit est apparenté aux langues anciennes européennes. Donc, derrière le sanskrit, il y a une langue, une proto-langue, c'est-à-dire que c'est une langue que les scientifiques ont déduite. Elle a dû exister, mais ce n'est pas une langue dont on a des preuves qu'elle a été parlée. Cette proto-langue, c'est l'indo-européen, Et de l'indo-européen est sorti le sanskrit, est sorti le grec, est sorti plus tard le latin, etc. Donc le français a une origine commune avec le sanskrit à travers la racine indo-européenne. Et ce qui fait que un certain nombre de mots, quand on les analyse, les mots sanskrits, eh bien, on retrouve des similitudes avec des racines latines et donc aussi avec des racines françaises. Le meilleur exemple, et j'en donnerai qu'un, c'est le mot yoga. Yoga, bon, c'est un mot indien, ah oui, c'est un mot du sanskrit. Eh bien, la racine du mot yoga, c'est yung en sanskrit, et en latin, c'est yungare. Et le mot yungare en latin veut dire joindre, et le mot sanskrit yoga veut dire joindre aussi, ou jonction. Et de là est sorti le français religion. La religion, c'est quelque chose qui permet de joindre, de rejoindre l'individu avec un principe supérieur. Donc, c'est assez intéressant de voir que des mots comme ça, qu'on a l'impression qu'ils sont complètement exotiques, en fait, quand on s'intéresse un peu à l'étymologie, on s'aperçoit que pour un certain nombre d'entre eux, eh bien, ce sont des mots qui sont familiers quelque part. En tout cas, il y a des racines communes. Il y a un autre mot, je vous donne un autre mot, mais qu'on va voir tout de suite, c'est le mot Veda. Le mot Veda, qu'est-ce que c'est les Védas? Ce sont justement les textes sacrés de l'hindouisme. Eh bien, ça vient d'une racine vide, et c'est la même racine qui donne en français vidéo. La vidéo, c'est le fait de voir. Et les Védas, c'est la connaissance qui naît du fait qu'on voit les choses. Donc voilà deux mots qui montrent que quand on s'intéresse à l'Inde, c'est pas forcément totalement exotique. C'est un peu différent avec le chinois. On a moins de, je crois même qu'on n'a pas du tout de, comment dire, de racines communes du point de vue de la langue. Alors. Eh bien, donc au fil des siècles, hein, ça s'est fait petit à petit, des textes ont été rassemblés comme ça, et ça a donné un corpus de textes. Enfin, il y a trois catégories de textes. Je vais faire un peu rapide, hein, puisque vous n'êtes pas venu là pour un cours de philo, mais c'est quand même intéressant d'avoir quelques repères. Donc, trois catégories de textes. Une première catégorie, les textes les plus anciens, et j'appelle ça les textes inspirés, parce que ce sont ceux qui ont été soit rédigés par ces fameux rishis, ces premiers sages, soit par leurs élèves, voilà, on ne sait pas bien. Et donc, c'est ces textes qui, par la suite, ont été rassemblés dans des recueils, et il y a quatre recueils, et on appelle ça les Védas, les quatre Védas. Donc, on peut dire que les Védas sont pour l'Inde l'équivalent de la Bible pour la civilisation judéo-chrétienne. La Bible aussi, c'est une compilation de textes qui ont été comment dire, produits à différentes époques par différents hommes ou femmes, les prophètes. On peut dire que les prophètes bibliques, c'est un petit peu les rishis védiques. Voilà. Des gens inspirés dont les paroles ont été notées. Donc ça, c'est la première série, la plus ancienne, des textes sacrés de l'hindouisme. Ce sont les Védas. Et les Védas, c'est un peu comme la Bible. Si vous avez au moins quelques souvenirs de votre culture chrétienne, vous savez que dans la Bible, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Et si vous vous souvenez comment est faite une Bible, en gros, 9 dixièmes du livre, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est juste à la fin, toute petite partie. Mais pour nous, aujourd'hui, cette petite partie, le Nouveau Testament, ce sont là où se trouvent les évangiles. C'est évidemment la partie la plus intéressante, celle qui est la moins éloignée de nous, celle qui nous peut nous parler, les paraboles du Christ, etc., on peut encore les lire avec profit, être touché, voilà. Et bien, c'est la même chose dans les Védas. Il y a 99% des Védas, c'est des textes très anciens, qui sont un peu difficiles à comprendre et dont on ne voit pas forcément tout de suite en quoi ça parle de nous. Hein. Et puis, il y a une partie plus récente, mais quand je dis plus récente, c'est voilà, les textes védiques, ils ont 4000 ans ou 3500 ans, et la partie récente, elle en a 2500. Hein. Voilà. Et cette partie, c'est ce qu'on appelle les Upanishads. Et donc, c'est dans les Upanishads qu'on trouve les principes de la sagesse indienne. Et donc, ce sont ces textes que j'ai personnellement étudiés d'assez près et qui inspirent une bonne partie de ce que je vais vous dire ensuite. Voilà, il y en a qui avaient jamais entendu parler des Védas. Si, ça vous dit quelque chose? Non, jamais. Voilà. De mon temps, mais j'espère que ça a changé, à l'école, on ne parlait jamais des autres cultures. On parlait que de notre culture à nous. J'espère que ça a un peu évolué et que maintenant. On parlait même pas. Dans, vous, on ne vous en a pas parlé. Moi, j'ai eu le droit à l'histoire sainte quand j'étais en 6e, 5e. Bon, c'était. Si, il y avait quand même. Voilà. Je vous ai pas, je vous dis pas que ça m'a passionné à l'époque, hein, mais voilà. Alors, donc c'est le premier niveau de texte. Ensuite, il y a un deuxième niveau de texte. Si vous faisiez du yoga et pas du tai chi, je vous en parlerai davantage. Mais là, je ne vais pas m'étendre. Ce sont des textes que j'appelle entre guillemets savants, c'est-à-dire ce sont des textes plus techniques qui présentent les différentes disciplines issues de cette sagesse indienne ou issues de la culture indienne. Alors, par exemple, quand on fait du yoga, eh bien, il y a un texte fondateur qu'on appelle le Yoga Sutra et qui définit ce que c'est que cette discipline du yoga, comment il faut s'y prendre, les différentes étapes. Voilà, c'est un texte très intéressant. Mais des textes comme ça que j'appelle savants, le mot sanskrit c'est les shastras, eh bien, il y en a pour chaque discipline. Il y a des textes techniques comme ça. Pour les arts, par exemple, pour la musique, pour la danse, il y en a pour la médecine, il y en a pour l'architecture. Les différents domaines de connaissances qui étaient développés dans cette culture ont chacun une série de textes classiques qui donnent les clés de cette discipline telle qu'elle est conçue à l'origine pour servir de support vers la sagesse. Parce que dans la tradition indienne, toute la culture est peu ou prou reliée à un projet d'évolution spirituelle. Donc même si on est musicien, ou si on est médecin, ou si on est guerrier, parce qu'il y a aussi des traités sur les arts martiaux, eh bien, l'activité que l'on apprend et puis qu'ensuite qu'on pratique, elle nous aide à évoluer intérieurement. Elle n'est pas juste, comment dire, à but purement utilitaire. Donc vivement qu'on retrouve ça dans notre culture et que quand on s'intéresse, je sais pas quoi, à un domaine technique, ça nous connecte aussi à plus profond. Mais ça, on verra. Donc, deuxième texte, deuxième série de textes. Et puis, il y a une troisième série de textes, dont je dis aussi un petit mot. C'est parce que c'est très important en Inde. Et il y en a parmi vous qui ont été en Inde? Il y en a sûrement qui ont voyagé. Ouais, vous? Oui. Pas plus que ça? Bon, vous avez beaucoup été en Chine, alors. Non plus? Bon. Ah oui, mais je crois que toi, c'est un de tes tes désirs secrets.
C'est des projets, mais...
Voilà, c'est des projets. Bon. oui, alors donc, si un jour vous allez en Inde, vous verrez que dans la culture populaire, ce qui compte le plus, ce ne sont pas les Védas ni les Upanishads, ce ne sont pas non plus les textes savants, mais c'est les textes de la littérature populaire. Et il y a, c'est très riche, la tradition littéraire indienne, mais il y a deux types de textes. Il y a des grandes épopées, et en particulier, il y en a deux qui sont majeures, une qui s'appelle l'épopée du Mahabharata, et l'autre l'épopée du Ramayana. Alors, voilà, peut-être c'est la première fois que vous entendez ces mots, mais si vous allez en Inde ou si vous vous intéressez à la culture indienne, vous croiserez forcément ces mots, parce que les héros de ces épopées ont été divinisés. Et donc, quand on se promène en Inde, eh bien, on voit très souvent des statues représentant tel ou tel des héros de ces épopées. Et en particulier dans la première, le Mahabharata, il y a un petit bout de cette très grande épopée qui est devenue extrêmement célèbre et qui s'appelle la Bhagavad Gita. Là, vous avez peut-être quand même entendu ce mot parce que c'est le texte de la tradition indienne qui est le plus connu à travers le monde. Il a été traduit dans toutes les langues du monde, lu, voilà. Donc, souvent, on a entendu parler de la Bhagavad Gita, même si on ne l'a pas forcément lu. Voilà, alors, c'était juste pour vous dire un petit peu que la sagesse indienne, eh bien, elle s'appuie sur trois types de textes. Les plus savants, eh bien, s'intéressent aux Upanishads, ceux qui exercent un art ou une discipline s'intéresse aux textes techniques, et puis tout le monde connaît peu ou prou les légendes, enfin les épopées et les légendes. Je ne vous ai pas parlé des légendes, je vous ai parlé des deux épopées, mais il y a, comme je disais, la tradition indienne est très riche, donc il y a aussi de nombreuses épopées qui racontent la vie de telle ou telle divinité, et qui sont pour les Indiens populaires, enfin pour les Indiens du peuple, pardon, des sources d'inspiration. Bon, donc en fait, vous voyez pourquoi on peut consacrer sa vie à l'étude de la tradition indienne. C'est très très vaste, et moi qui m'y intéresse donc depuis l'âge de 18 ou 19 ans, je suis loin d'en avoir fait le tour. C'est comme quand on rentre dans une grande forêt, on en connaît un petit bout, mais plus on avance, plus on se dit mais il y a beaucoup plus que je ne connais pas que ce que je connais. Alors, moi, je vous parle de la tradition indienne parce que c'est celle que je connais le mieux, mais si à ma place, il y avait quelqu'un qui vous parlait de la tradition chinoise, c'est peut-être ce qui a été fait l'année dernière,
ouais,
avec
Yolaine. Avec
Yolaine.
Voilà.
Ben, c'est pareil, enfin, j'imagine qu'elle pourrait aussi vous dire que c'est un univers très vaste, hein, et que quand on s'y intéresse, voilà, ça peut occuper assez longtemps. Bon, maintenant, donc là, j'ai fini la partie introduction culturelle. J'espère que je ne vous ai pas trop rasé, mais voilà. Bon. Donc maintenant, on va en venir à des choses qui peuvent nous concerner d'un peu plus près, c'est-à-dire la vision du monde qui est propre à cette sagesse indienne. Avant que je commence ça, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur la première partie là ? Vous pouvez, je n'ai pas forcément réponse à tout, mais sur les questions culturelles comme ça, est-ce que ça vous convient comme introduction ? Ça vous permet d'avoir un petit peu un...
Découverte.
Voilà.
Du cheminement.
D'accord.
Voilà. Moi, ça classe les notions que j'avais, mais je n'avais pas trouvé.
Bon, si par après il y a une question qui vous vient, vous avez le droit de revenir en arrière. Donc, la vision du monde propre à la sagesse indienne. Alors, je vous l'ai dit dans l'introduction, il y a vraiment une notion qui qui est en quelque sorte transversale à tous ces textes, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, on la retrouve dans tous les textes que je vous ai cités, que ce soit des textes hautement philosophiques ou des textes populaires. C'est l'idée que la vie humaine, pour être réussie, elle doit s'accomplir dans quatre domaines. Et donc, ce sont les buts qui sont assignés par la sagesse indienne à la vie humaine. Donc, c'est intéressant de les voir, ces buts, et de voir si ce projet de vie est encore d'actualité au XXIe siècle, ou si c'est des trucs complètement farfelus, enfin, ou qui n'ont plus de... Non, qui ne font plus sens pour nous. Eh bien, moi, je pense que ça fait complètement sens et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Il y a quatre mots sanscrits pour désigner ces quatre buts. Le premier but, artha, et ça veut dire la prospérité matérielle. Donc, c'est un peu étonnant quand on n'y a pas réfléchi avant, mais parce qu'on pense que ben voilà, l'Inde, oui, c'est une culture très tournée vers la spiritualité, mais enfin, d'un point de vue concret et matériel, ils sont pauvres. Voilà, heureusement, maintenant, ils le sont un peu moins parce que les possibilités de développement économique occidental voilà, ont fait. Mais avant, voilà, c'était un pays très arriéré, etc. Alors, on ne va pas rentrer dans un débat historique sur comment l'Inde a évolué au cours des millénaires. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les textes de sagesse, il est considéré que c'est le premier but naturel d'une existence humaine, c'est d'assurer son autonomie matérielle. Donc, dans le système éducatif très très ancien, tiré des Védas, eh bien, c'était une préoccupation autant que chez nous. Il s'agissait de donner aux enfants les moyens de gagner leur vie, pour dire les choses le plus simple. Simplement possible. Et c'est tellement vrai que cet aspect est important que des maîtres contemporains comme le maître d'Arnaud Desjardins considéraient que quelqu'un qui n'était pas autonome matériellement n'était pas qualifié pour suivre un chemin spirituel. Il fallait d'abord qu'il gagne son autonomie matérielle. Sûr, après les destins de chacun peuvent être différents, hein. Et voilà, mais de façon générale, la sagesse indienne n'est pas du tout contre le fait de réussir matériellement, d'avoir les moyens de vivre décemment. Voilà, le seul point le seul bémol, si je puis dire, c'est que, alors que, en gros, dans notre culture contemporaine, c'est devenu, en tout cas pour beaucoup de gens, le seul but de l'existence, hein, c'est de réussir matériellement, eh bien, du point de vue indien, ce n'est que l'un des quatre buts. C'est le premier, mais c'est donc, de ce point de vue, c'est un socle, donc il est nécessaire. Mais c'est évidemment loin d'épuiser le sujet de pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre. Le deuxième but, c'est le mot sanskrit, vous le connaissez sans savoir que c'est ça que ça veut dire, c'est le mot kama. Vous le connaissez parce que vous avez tous au moins entendu parler du Kama Sutra. Qu'est-ce que c'est le Kama Sutra? C'est un traité. Sutra, c'est comme tout à l'heure, je disais, il y avait le Yoga Sutra, c'était un traité technique de yoga. Le Kama Sutra, c'est un traité technique de l'amour, de la vie amoureuse et de la vie sexuelle. Voilà. Donc, du point de vue de la sagesse hindoue, Kama, le désir, et le désir amoureux en particulier, c'est une dimension essentielle de l'accomplissement humain. Donc là aussi, on peut avoir l'impression que l'Inde, c'est un pays où il y a beaucoup de moines, où il y a beaucoup de gens qui ont une vie spirituelle et qui donc ont renoncé à la vie, à la vie de famille, à la vie amoureuse, etc. C'est vrai, j'expliquerai après pourquoi il y a beaucoup de moines en Inde, mais dans les textes de la sagesse classique, le fait de s'accomplir à titre personnel, donc de reconnaître quelles sont mes aspirations profondes et de faire en sorte que ça puisse avoir lieu, donc de se marier si c'est ça qu'on souhaite, d'avoir des enfants si c'est ça qu'on souhaite, d'exercer une profession qui nous intéresse et qui nous épanouit, etc., etc., de voyager, de se cultiver, tout ça, ça fait partie de la sagesse selon l'Inde ancienne. Ce n'est pas des choses à rejeter. Mais là aussi, alors bon, on va dire, en gros, notre société, elle est d'accord avec ces deux premiers buts. Bon, il y en a qui sont très axés sur réussir matériellement, point, mais il y a aussi beaucoup, il faut s'épanouir, réaliser ses désirs, voilà, c'est quand même, et puis même, c'est une société où quand on n'a plus de désirs, on nous en invente, en créant artificiellement des aspirations, voilà. Donc, ça, ce sont les deux aspects de notre société qu'on connaît le mieux. Et donc, vous voyez que ces vieux textes, ils sont quand même en prise sur notre existence d'aujourd'hui. Avec le troisième but, il y a déjà, c'est aussi quelque chose qui existe dans nos sociétés, mais qui tend malheureusement à ne pas jouer un rôle important. Dans la perspective de la sagesse indienne, pour qu'un être humain soit heureux, il faut certes qu'il soit matériellement dans des conditions prospères, qui lui permettent de ne pas avoir de soucis pour se nourrir, se loger, s'habiller, etc. Il faut qu'il ait la possibilité d'avoir des satisfactions personnelles par rapport à ses aspirations profondes, mais il faut aussi et surtout que ces deux choses se fassent en prenant en compte l'harmonie générale, l'harmonie de la société et plus largement l'harmonie de l'univers. D'un certain point de vue, la sagesse indienne, comme toutes les sagesses traditionnelles, ce sont des pensées qui sont écologiques ou écologistes avant l'heure. L'écologie, c'est quoi? C'est avoir conscience que nous ne sommes pas tout seuls dans notre petit coin et que ce que nous faisons n'est pas indépendant de la marche de l'univers. Alors d'abord, ce n'est pas indépendant de notre petit cercle à nous. Si je jette mes paquets de chewing-gum vides par la fenêtre de ma voiture, c'est mes voisins qui vont se retrouver avec des ordures dans les fossés. Voilà. Enfin, encore la voiture, on peut aller loin, mais si je me promène et que je ne sais pas quoi, je mange un sandwich et que je jette l'emballage, ça va être mon environnement immédiat qui va être pollué. Et puis, on le sait maintenant d'aujourd'hui, en fait, c'est un système global et que, si je brûle, si je me chauffe au fioul en Bretagne, quelque part, je suis un tout petit peu responsable du fait qu'il y ait des inondations, je ne sais plus trop où il y en a actuellement, ou une sécheresse, Parce qu'en fait, le système climatique est un système global et pas local. Bien, cette notion, c'est une notion très importante dans la sagesse indienne. Le mot sanskrit, c'est le mot dharma, peut-être un mot dont vous avez entendu ici ou là. C'est l'idée donc d'harmonie globale. Et pour qu'un être humain ait le sentiment d'avoir réussi sa vie, il ne faut pas seulement qu'il ait réussi matériellement, qu'il ait réussi psychologiquement. Il faut aussi qu'il sente que son existence contribue à l'harmonie de l'ensemble. Et ça, je crois que le bât blesse pas mal dans notre culture, parce qu'on a petit à petit perdu de vue que Enfin, notre culture, elle est très individualiste, c'est-à-dire chacun pour soi et Dieu pour tous, s'il existe encore, mais chacun pour soi. Du moment que moi je réussis à être heureux, à m'épanouir, tout, voilà, pour m'épanouir, j'ai besoin de faire beaucoup de voyages en avion. Je fais des voyages en avion. Je ne me demande pas si en faisant ça, enfin maintenant on commence à se le demander, mais c'est vraiment tout récent. Moi, quand j'étais en Inde dans les années 70-80, à aucun moment on s'est dit on prend l'avion, mais quand même, voilà, on pollue et tout ça. Non, à l'époque, il n'était absolument pas question de ça. C'était juste, nous, on a la chance d'être des Européens avec un niveau de vie meilleur que dans certains pays. Donc, on prend l'avion et puis sur place, la vie est pas chère, et etc. On profite. Pas du tout conscience. Bon, alors le niveau de conscience à travers l'écologie, ça a progressé. Mais l'écologie, c'est qu'un petit aspect du dharma. Il y a plein d'autres aspects, l'économie par exemple. Pour l'instant, peut-être vous vous intéressez à l'économie locale, à l'économie circulaire, etc. Moi, je m'y intéresse. Je trouve que ça va dans le sens du dharma. Mais ce n'est pas comme ça que notre société, économiquement, macroéconomiquement, fonctionne. Pour l'instant, on est encore sur les vieux modèles. Plus je vends, plus je m'enrichis et mieux c'est. Voilà, etc. Donc ça, notre société, elle manque cruellement, selon moi, de cette notion de dharma, conscience du bien de l'ensemble. Et donc vous voyez que là aussi, ces notions qui se trouvent dans des textes qui ont 2000 ou 3000 ans d'âge, eh bien, elles ont pas, sont pas obsolètes. Voilà, troisième but. Quatrième but, c'est le but proprement spirituel. Le mot sanskrit, c'est le mot moksha, qui vient d'une racine qui veut dire libération. C'est pour ça qu'on traduit le mot soit par libération, soit par éveil. Et alors, ça va être autour de ça que je vais parler maintenant, mais avant d'en dire plus, donc. Vous voyez que la culture indienne n'est pas tournée exclusivement vers le spirituel. Elle considère qu'une vie humaine qui ne se déploie pas dans cette dimension, qui ne s'accomplit pas spirituellement, va être insatisfaisante. Les trois premiers buts, alors que déjà le troisième, c'est un peu moins égocentré. Je m'intéresse à l'harmonie de l'ensemble, de mon village d'abord, puis du pays où j'habite, puis de l'humanité, et puis peut-être plus largement de la nature. Voilà. Bon. Tout ça, c'est des degrés possibles. Donc, ça donne du sens, mais ça ne permet pas de répondre aux grandes questions existentielles que nous portons en nous. À certains moments, nous sommes très travaillés par ces questions. À d'autres moments, on se débrouille pour les oublier. Puis, à d'autres moments encore, elles refont irruption dans notre existence suite à un drame, suite à. Voilà. En gros, en général, au moment de l'adolescence, on a une période où on se pose beaucoup de questions. On n'est pas d'accord. Avec la façon dont nos parents, nos aînés vivent, on se dit mais non, mais ça n'a pas de sens, il faudrait faire autrement, voilà. Donc il y a pour beaucoup, à l'adolescence, il y a une période comme ça d'idéalisme, voilà, je vais faire mieux que la génération d'avant, on va inventer de nouvelles manières de vivre, beaucoup plus conviviales, chaleureuses, etc. Bon, et puis petit à petit, on oublie parce qu'on se laisse rattraper par un certain nombre de réalités concrètes, matérielles entre autres. Mais ces questions existentielles qu'on avait en nous, elles sont juste masquées par nos occupations. Et elles reviennent à la surface quand nous rencontrons un obstacle sévère. Voilà, c'est ce que on appelle désormais d'un mot à la mode, le burn-out ou la dépression. Voilà, les gens fonctionnent pendant un certain nombre d'années sans faire face à ces questions profondes de sens. Puis un beau jour, eh ben, ils explosent en vol, ils n'en peuvent plus. Alors on croit, enfin c'est comme ça qu'on interprète le plus souvent, c'est « Ah oui, c'est du surmenage, il a trop travaillé ». C'est pas qu'il est, enfin, ça peut arriver le surmenage, mais moi je pense que fondamentalement, ce qui produit les dépressions ou les burn-out, c'est que le style de vie qu'on a n'a pas de sens, pas suffisamment de sens. Et que, alors en plus, on en fait beaucoup. Alors, d'accord, il y a des facteurs qui font que ça se déclenche, mais c'est fondamentalement une question de perte de sens, selon moi, ma compréhension. Eh bien, d'un certain point de vue, et pour certains d'entre nous, c'est une crise comme ça qui remet en capacité de se poser des vraies questions. Et si on ne se pose pas ces vraies questions, et si on ne cherche pas des réponses qui nous satisfont, eh bien, on ne pourra pas sentir que notre vie a complètement sa raison d'être et est complètement épanoui. Et donc c'est pour ça que ce quatrième but, le but spirituel, dans la perspective hindoue, n'est pas un but facultatif. C'est pas une option. Bon ben, vous réalisez votre vie et puis si vous avez une sensibilité religieuse, ben intéressez-vous un peu à la religion ou à quelque chose de spirituel. Mais c'est une option. Il est tout à fait possible de mener sa vie sans s'intéresser à ça. Ça, c'est le message de notre culture. Au mieux, c'est une option. Quand c'est pas, de toute façon, ça n'existe pas. Donc, c'est des gens qui se racontent des histoires, etc. Bon, ça, c'est dans notre culture. Mais dans la culture hindoue, non, c'est pas une option. C'est l'essentiel de l'existence humaine, c'est de chercher des réponses et d'en trouver des réponses. Parce que c'est ça qui est le plus étonnant. Une des raisons pour lesquelles le questionnement spirituel est devenu, une espèce de luxe ou d'option, que voilà, vous avez le droit de... Vous avez la liberté de penser, donc vous avez le droit de vous intéresser à ça, mais voilà, c'est sous-entendu, vous y croyez pas, mais c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment expérimenter, hein, la dimension spirituelle. Et bien, c'est justement que, au fur et à mesure des siècles, et bien, nous nous sommes collectivement, en Occident, éloignés de l'expérience spirituelle. C'est devenu un système de croyance. Malheureusement, et c'est ça qui fait la limite du christianisme actuel, c'est que c'est devenu un système de croyance et non plus un champ d'expérience. Donc, bah, croyance contre croyance, vous croyez ça, moi je crois ça, comme ni l'un ni l'autre, on a l'expérience de ce qu'on dit, ça s'annule quelque part. Alors que la sagesse indienne, c'est, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, les rishis, ils ont transmis l'expérience d'une unité vécue entre leur conscience et la marche de l'univers. C'est ça qui fait le cœur de la sagesse indienne. Donc c'est ça que propose aussi cette culture comme but ultime de l'existence humaine. C'est de faire l'expérience de cette unité entre ce que nous sommes vraiment et ce qu'est l'univers. Et ça va amener des réponses à nos grandes questions existentielles. Pourquoi est-ce que je suis né? À quoi sert ma vie? Qu'est-ce que je vais devenir une fois que je serai mort? Etc. Non pas que cette culture répond avec des dogmes. Elle ne vous dit pas « vous serez ceci » ou « il se passera cela », etc. Mais elle vous donne les moyens de percevoir une dimension de vous où ces questions ne se posent plus. C'est pas qu'il y a une réponse au sens philosophique, c'est qu'il y a un niveau de vous où vous êtes en paix par rapport à ça. C'est ça la sagesse. C'est pas des connaissances, mais c'est un goût, une expérience, et du coup une détente et un apaisement. Donc c'est de ça dont je vais parler un peu plus maintenant. Ça vous va sur ces quatre buts de l'existence avant que je passe à la suite? On a jusqu'à quelle heure, Alain? 5 heures à peu près.
On a dit 16h30, je
crois. Oh là, oh.
Une pause. Et après, la suite. 16h30, la première.
D'accord. Alors, oui, ben, je vais aller un petit peu vite. Là, j'ai présenté ces quatre buts sous la forme d'une pyramide. Avec les mots sanskrits, donc je m'excuse, je les redis. Artha, c'est la prospérité. Kama, c'est la satisfaction des désirs. Dharma, c'est la conscience globale de l'harmonie. Voilà. Et moksha, c'est l'éveil à cette sagesse dont je parle depuis le début. Donc on voit que dans cette perspective, on ne peut pas vraiment se déployer spirituellement si on n'a pas... si on ne s'est pas accompli sur les trois premiers niveaux, hein, donc ce n'est pas du tout qu'il faut renoncer à la vie dans le monde pour se consacrer à la sagesse, c'est qu'il faut s'accomplir jusqu'au point où on sent, bon, j'ai eu assez, et maintenant je m'intéresse à quelque chose de plus subtil que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et pour, comment dire... synthétiser ça, on peut dire que les trois premiers buts concernent l'ego, c'est-à-dire notre individualité. C'est, je cherche à être en sécurité matérielle, à être accompli psychologiquement, et puis je cherche à donner du sens en étant conscient, en essayant de participer à l'harmonie d'ensemble. Mais c'est moi, ça ne remet pas en cause le fait que je suis une individualité et que c'est moi que je cherche à accomplir. Alors que moksha, comme on va le voir maintenant, c'est dépasser le sens de notre individualité et découvrir que nous sommes porteurs d'une dimension, si je puis dire, trans-individuelle, c'est-à-dire qui est au-delà de notre moi, une dimension infinie que nous avons tous en nous, mais que nous ignorons, elle est en nous. Et c'est, voilà, donc c'est la différence entre les trois premiers buts qui restent des buts de la personne, de l'individualité, de l'ego, et le troisième qui est un but qui dépasse l'ego. Alors c'est cette fameuse